Vous êtes sur RTL.
Faire. RTL Matin.
On n'est pas forcément d'accord.
Bonjour Nicolas Domenac du nouveau magazine littéraire.
Bonjour à vous.
Et bonjour Olivier Picard qui collabore au dossier du Canard Enchaîné.
Bonjour.
Intéressant de vous avoir Olivier car vous avez été co-auteur d'une enquête de 400 pages en 2002 intitulée « Mariage, sexe et tradition » aux éditions Plon avec un chapitre sur la médiatisation de la vie privée des politiques, notamment révélation de Mazarine, etc. etc. Alors il y a eu l'affaire Hollande et Julie Gayet, DSK, la fille de François Mitterrand, des secrets révélés. Mais c'est vrai que l'affaire Griveaux a dépassé le secret de la vie privée pour plonger dans l'intime. Le privé, pour ne pas dire tout simplement le sexe. Le Canard Enchaîné est coutumier des révélations, mais sur Benjamin Griveaux, cette fois-ci, c'est purement sexuel. Au Canard, on s'interroge sur les histoires de fesses avant d'en parler ou de les publier. Je vous pose la question.
Oui, la formule du Canard, c'est de dire toujours qu'on s'arrête à l'orée de la chambre à coucher.
Chambre
d'ailleurs,
à coucher.
Eric Emtaz le rappelle dans son éditorial de cette semaine.
Ça reste vrai.
Et ça reste vrai. C'est-à-dire que pour un journaliste politique, pour des journalistes politiques, la seule question devrait être de savoir si un fait a un intérêt politique, s'il a une incidence politique. À partir de ce moment-là, on peut en parler, et s'il est public ou non.
Oui.
Cela dit, là, on est quand même dans un domaine un petit peu différent. On est ni dans une question morale, ni dans une question sexuelle, ni dans une question de pudibonderie. On est simplement dans une question, là, pour le coup, d'une véritable dérive démocratique, et qui n'est pas liée à ce cas particulier cette dérive démocratique, elle est ancienne. On le voit déjà même avec la crise des Gilets jaunes. On a vu petit à petit les frontières qui protégeaient la personnalité publique de la personnalité voler en éclats. On va chez un homme politique dans son espace privé pour défoncer son jardin. Ça date déjà de plusieurs années. Deuxième chose, les politiques eux-mêmes ont ouvert la barrière. Quand on ouvre sa vie privée au-delà. On peut ouvrir son bureau, par exemple, de parlementaire, sa permanence, montrer comment l'homme est sur le terrain, l'homme ou la femme publique est sur le terrain. Oui, mais à partir du moment où on ouvre son domicile, ou comme Ségolène Royal avait commencé dès 1992, où on ouvre sa chambre à la maternité pour montrer le bébé, où on dit que ça fait partie d'un plan média pour être tranquille, on fait rentrer le loup dans la bergerie. Donc là, on est à un moment où effectivement, c'est aux politiques de le faire, et c'est aussi une question de déontologie pour les journalistes.
Nicolas Domenac.
Oui, c'est vrai qu'il faut prendre en compte la façon dont l'escalade qu'il y a eu, la surenchère dans, au fond, les frontières de la vie privée, la façon dont on les a repoussées depuis les Gilets jaunes, notamment. J'ai fait une enquête là récemment sur les députés de La République En Marche, les agressions dont ils ont été victimes. Mm-hmm. Agressions auxquelles on s'habitue d'ailleurs, ce qui est absolument insupportable.
Effroyable.
Et on voit que les limites de l'espace privé ont toujours été bousculées de plus en plus. C'est-à-dire qu'on s'en prend à leur voiture, d'abord, qu'on fait flamber, on s'en prend à leur appartement, à leur domicile privé, on s'en prend à leurs enfants en classe, on s'en prend à leurs parents, au point que j'ai des parlementaires que j'ai appelés et qui m'ont dit, moi je veux plus évoquer ces intrusions dans mon espace privé parce que ça va en entraîner d'autres. Je veux dire, on est dans...
On révèle des codes de porte cochères, enfin c'est hallucinant.
Voilà, et donc alors il y a ce mouvement qui est favorisé en plus par les nouveaux médias, puisque là, effectivement, sur Internet, ils se font insulter en permanence, donc ils se sentent agressés, quoi, ils se sentent complètement... et ils ne savent pas comment répondre. Alors justement, il y a une interpellation qu'il aurait faite à eux quand même. Effectivement, quand on fait rentrer les caméras dans la chambre à coucher, il est difficile de les en faire sortir.
Oui,
ensuite.
Oui, oui. Voilà. Alors, il y a eu des excès, qu'on pourrait dire, fondamentalement démagogiques et de mise en avant de nos responsables politiques là-dessus, il n'y a pas de doute. Quand on commence à aller filmer, directement à l'hôpital dans la chambre de la parturiente, mais je suis désolé, ça déclenche quelque chose. En même temps, ça ne justifie pas tout. Là, on est quand même confronté à quelque chose de particulier. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux et qui démultiplient et où, en fait, l'information, si je puis dire, est balancée immédiatement et répercutée immédiatement qui ont changé la donne? Nicolas Domenac.
Ah, bien sûr, parce qu'au fond, il y a une haine sociale qui n'a cessé de monter, mais qui se sert des nouveaux médias et qui les démultiplie, les catalyse sans qu'on sache en plus comment les maîtriser. On voit que dans ces affaires-là, il y a cette immense naïveté des politiques qui devraient pourtant être au fond au fait de ces affaires-là. Je rappelle que Benjamin Griveaux, quand même, il a vécu en direct l'affaire Dominique Strauss-Kahn et d'autres affaires. C'était un homme politique expérimenté.
Donc je rappelle qu'on disait que lors des réunions au FMI, non seulement il faisait couper les téléphones, mais il faisait retirer la pile des téléphones. Je ne saurais jamais si c'est vrai, mais l'idée nous dit quelque chose du climat de paranoïa dans lequel ils étaient censés vivre.
Mais c'est vrai, mais en même temps, c'est difficile d'imaginer que les intrusions dans l'intimité puissent prendre cette dimension-là. À chaque fois, on est quand même surpris, et en plus, par la, cette haine, on a beau s'y préparer, se dire qu'elle existe, on ne s'y attend pas à ce point-là. On ne s'en prémunit jamais. Je veux dire, d'être le sentiment qu'on est une cible d'une chasse à l'homme politique, et que c'est après vous qu'on en a en permanence. C'est déstabilisant, quand même, même si on fait des fautes qu'il faut prendre en compte. Quoi.
Olivier Picard.
Je crois que c'est pas, le problème ne vient pas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont pris toute leur place
la chambre d'écho
dans la vie politique. C'est un gros tuyau dans lequel passe tout, le meilleur, le pire. Le problème, c'est qu'à partir de ça, le personnel politique doit prendre conscience du risque et de la chambre de résonance que peuvent représenter les réseaux sociaux. À partir du moment où vous êtes une personnalité politique, bien sûr, dans votre vie intime, vous pouvez avoir la vie sexuelle que vous voulez, tout seul, à deux, à plusieurs. Nous n'avons pas à juger de ça. En revanche, quand vous êtes un homme politique, vous n'êtes pas tout seul, parce que vous représentez quelqu'un. Quand vous représentez quelqu'un, vous ne représentez pas seulement votre, vous ne pouvez pas seulement vous prévaloir de votre intimité. Et dans ces cas-là, le nanisme en vidéo, qu'on envoie à une personne, on prend un risque. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme un homme politique qui ne peut pas rouler à 160 km/h en disant, c'est pas grave, je paierai l'amende. Mais non, parce qu'il ne représente pas que lui. C'est la vraie question.
Le danger, si vous voulez, c'est que l'homme politique, au fond, comme il y a une perte d'efficacité, une perte de débat idéologique, a été de plus en plus distancié par rapport aux électeurs. Donc il a cherché à se rapprocher toujours plus, à donner une image de lui, au fond, la plus parfaite. Or, il n'existe pas d'image parfaite. Je veux dire, on a tous une part de mystère, et Dieu merci, toute une part de secret, et qu'il va falloir préserver. Et là, les médias sont aussi interpellés, pas seulement les réseaux sociaux. Je donne juste un tout petit exemple très rapidement. Je veux dire, quand François de Rugy, au fond, se trouve au centre d'une tempête qui commence par « il mangeait des homards géants alors que les homards géants n'existent pas », je veux dire, il est de la responsabilité de nous, les médias, d'arrêter de dire qu'il mangeait des homards géants, ce que j'ai entendu sur beaucoup de plateaux, je veux dire. Oui. C'est un exemple, mais qui est symptomatique, me semble-t-il.
Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent être maintenant en alerte permanente et conscients de leurs responsabilités, comme vous nous le suggériez il y a quelques instants, de façon, plus vive que jamais?
Oui, enfin, ils conservent tout de même une part d'intimité, de liberté qui est grande, mais c'est à eux de faire attention de bien fixer les barrières. Le risque est de notre côté, du côté des journalistes, le risque, c'est l'hygiénisme démocratique. C'est-à-dire qu'on voudrait que les hommes politiques et les femmes politiques soient parfaits. Ce qui nous amène à essayer de voir si le personnage privé est aussi parfait que le personnage public. Mais ça ne devrait pas être notre problème. C'est-à-dire que ce qui compte pour nous, c'est le personnage public. C'est-à-dire qu'on a vu dans l'histoire des personnalités politiques, historiques, qui étaient de grands personnages, qui ont fait beaucoup pour leur pays, leur personnalité privée n'était pas forcément à la hauteur, était décevante, médiocre.
La dépression et l'alcoolémie de Winston Churchill auraient pu inquiéter la planète entière, et en l'occurrence, il a peut-être sauvé l'Europe.
Ou Kennedy.
Bien sûr.
C'était loin d'être le modèle lumineux qu'il a pu projeter et que le personnage public a pu projeter. Et c'est à nous de faire la part des choses. Et c'est très très important.
Ce qui veut dire que nous, journalistes, nous avons encore un rôle, parce qu'on peut se demander aussi si on n'est pas totalement dépassé par les réseaux sociaux et ce qu'on y trouve.
Oui, et là, on a été un petit peu sur l'affaire Griveaux, par exemple, il y a une grande hypocrisie, parce que d'ailleurs, ce n'est pas des journalistes qui ont mis ça en ligne. C'est nous, en revanche, qui lui avons donné cette audience. C'est nous. Les médias, on peut toujours, dans chaque rédaction, chaque journaliste peut se dire « je le laisse de côté parce que ça n'a pas d'intérêt ». Et si on a un chef de service qui vous dit « on ne peut pas ne pas en parler », si, on peut toujours ne pas en parler. C'est une question de responsabilité, il faut assumer.
Nicolas Domenac.
Oui, il faut savoir savoir quel mot on emploie aussi à chaque fois. Les délateurs ne sont pas des lanceurs d'alerte. Je veux dire, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui balance sur votre vie privée, c'est un mouchard. Je veux dire, c'est un salopard. C'est pas quelqu'un qui sert le bien public. Or, quand je m'aperçois que dans les sondages, 30% des Français soutiennent ce type de pratique, ouais. Il faut être clair par rapport à ça, quoi. Il faut dire attention, je veux dire, ne confondons pas tout. Je veux dire, la liberté depuis les Lumières, c'est le droit à une vie privée aussi, c'est le droit au secret. Ça, c'est ce qu'il faut dire d'un côté. Il faut rappeler aussi ce que disait le général de Gaulle, très simplement, c'est que l'autorité ne va pas sans prestige et le prestige sans éloignement.
Je crois qu'on ne peut rien ajouter. Merci beaucoup, Nicolas Domenac, du nouveau.